suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. D'abord médecin, puis anthropologue, sans doute la trajectoire biographique de Didier Fassin le prédisposait davantage que d'autres à se pencher au chevet d'un mot aussi bref qu'immense, la vie. Invité par le philosophe Axel Honneth à choisir un thème pour les très fameuses conférences Adorno, qu'il eut récemment l'honneur de donner à l'Institut für Sozialforschung, autrement dit le siège de l'école de Francfort, Didier Fassin a donc répondu « Das Leben, life ». La vie, quelle que soit la langue, le mot renvoie chaque fois à deux dimensions que la philosophie a toujours tenté néanmoins de penser ensemble, mais deux dimensions qui semblent, avec le temps et les progrès de la connaissance, s'être inexorablement éloignées l'une de l'autre. D'un côté la biologie, de l'autre la biographie. Et ce n'est pas par la philosophie, même s'il la lit attentivement et la commente, la discute, que Didier Fassin propose à travers ses conférences qui paraissent sous le titre aussi simple qu'ambitieux « La vie » de rapprocher la perspective naturaliste de la perspective humaniste, mais c'est bien sûr en anthropologue. Un anthropologue qui peut s'appuyer sur ses propres enquêtes de terrain à travers le monde, comme il peut s'appuyer sur son savoir et sa pratique médicale, ou encore sur ses lectures philosophiques, mais aussi littéraires, puisque ce livre est, et c'est plus qu'un clin d'œil sous-titré, « La vie, mode d'emploi » critique. Didier Fassin est le premier invité de cette nouvelle année. Permettez-moi, chères auditrices, chers auditeurs, d'en profiter pour vous adresser tous mes vœux. La vie, mode d'emploi critique. Mode d'emploi, clin d'œil évidemment à Georges Perec, mais il n'y a pas que Georges Perec de présent dans ce livre de l'anthropologue Didier Fassin. On y trouve en exergue des différents chapitres des écrivains comme Samuel Beckett, Mahmoud Darwish, Fédor Dostoïevski, Robert Musil. On y trouve beaucoup de références littéraires et c'est assez naturellement donc qu'on retrouvera dans la deuxième partie de l'émission un écrivain, romancier, également professeur de littérature, Vincent Message, l'auteur des Veilleurs, de Défaite des maîtres et possesseurs, et puis aussi auteur d'un livre dont il était venu parler à la suite dans les idées sur les romanciers pluralistes. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Bonjour Didier Fassin.
Bonjour.
Vous êtes, je le disais, anthropologue, vous êtes professeur à l'Institute for Advanced Studies à Princeton et directeur d'études à l'école d'études en sciences sociales, et vous faites paraître au Seuil, donc, ces conférences à Adorno, qui sont une institution dans le temple de l'école de Francfort. Vous dites d'ailleurs votre surprise lorsqu'Axel Honneth vous a proposé de prononcer ces conférences. Comment avez-vous choisi ce qui vous a semblé une évidence et peut-être permis d'organiser à la manière d'un puzzle ou d'une partie de puzzle une quantité importante des travaux que vous avez menés depuis des décennies maintenant? Comment vous avez choisi ce thème de la vie?
Surprise, comme vous venez de l'indiquer, effectivement. D'abord parce que ce sont des conférences qui sont très prestigieuses, et ensuite parce que elles sont d'habitude données plutôt par des philosophes, et c'était donc la première fois qu'on demandait à un anthropologue de le faire, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de trouver un sujet qui puisse entrer en dialogue avec des textes philosophiques qui avaient nourri ma réflexion depuis plusieurs décennies et qui m'avaient permis d'avoir un dialogue théorique avec le matériau empirique que je recueillais sur trois continents où j'ai travaillé, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. Et donc c'est la vie me semblait à la fois un sujet immense dont j'avais presque honte de donner l'intitulé lorsque on me demandait sur quoi j'allais faire ces conférences, mais qui en même temps permettait de rassembler des travaux que j'avais menés depuis un certain nombre d'années autour de ce qui me semble être le fil conducteur de cet ouvrage, à savoir la question des vies inégales.
Oui, parce que je ne l'ai pas encore indiqué, c'est bien de l'inégalité des vies qu'aurait pu être titré ce livre, au fond. Vous insistez sur cette condition d'inégalité, ce qui ne veut pas dire l'accepter, mais dans une posture familière des sciences sociales qui consiste à regarder le monde et les choses en face, ne pas se contenter d'énoncer la prescription des grands principes philosophiques qui veulent que nos vies soient égales. Ça, c'est la philosophie politique normative, nos vies sont égales, mais de fait, la réalité sociale nous dit précisément le contraire. Et vos enquêtes ont été une nouvelle occasion à chaque fois de le vérifier, Didier Fassin.
Que ce soit effectivement les enquêtes, celles que je mets plus particulièrement en valeur dans ce travail, menées en Afrique du Sud ou menées en France, on voit que la question de l'inégalité des vies est absolument centrale, qu'on la prenne quantitativement en termes de durée de vie, d'espérance de vie, de mortalité. Rappelons qu'en France, par exemple, les ouvriers ont une mortalité entre 35 et 65 ans qui est deux fois supérieure à celle des cadres et des professions libérales. Donc ça donne une mesure de cette inégalité. Bien sûr, ces inégalités sont encore plus extrêmes dans un pays comme l'Afrique du Sud. Et donc, c'est cette inégalité qu'il s'agissait de mettre en regard de ce discours normatif, qui n'est pas simplement un discours normatif de la philosophie, mais qui est un discours normatif aussi de toute la pensée morale et, je dirais, de tout ce que les sociétés, notamment occidentales, ont avancé comme étant une vie à la fois inaliénable et inestimable au sens littéral, et donc ne devant pas faire de différence. La vie est la chose que nous valorisons le plus dans l'abstrait et dans son unité, et ensuite que nous traitons de la manière la plus inégale dans le concret.
Je voulais revenir sur ces deux dimensions, Didier Fassin, que vous relevez en ouverture de votre livre, deux dimensions vers lesquelles renvoie ce mot la vie, l'une qui a trait au vivant, à la biologie, et l'autre qui renvoie au vécu, finalement, à l'expérience historique de vivre une vie, ou à l'épaisseur historique des vies. Vous rappelez que la philosophie s'est donnée pour tâche de penser ensemble ces choses, mais que à mesure que, alors par exemple la médecine, les progrès médicaux, vous insistez beaucoup sur le rôle essentiel des découvertes, par exemple en matière génétique, qui ont permis de repousser au fond les définitions de la vie vers des entités de plus en plus petites, mais d'un autre côté d'autres découvertes nous ont amené à chercher la vie très loin dans l'espace. Bref, tout ça, ces choses se sont désarticulées en quelque sorte, renvoyant d'un côté à la connaissance des sciences de la vie et de l'autre à la connaissance des sciences vers lesquelles vous vous êtes dirigé, qui sont les sciences historiques, pourrait-on dire, mais qui comprennent aussi bien que l'histoire, l'anthropologie ou la sociologie.
On voit bien que la vie telle que le biologiste l'étudie à travers des cellules, à travers le génome, et la vie telle que l'étudie le romancier, on en aura un exemple tout à l'heure, a priori sont des objets qui sont très très éloignés. John Locke lui-même remarquait que si on posait à n'importe quel individu la question « qu'est-ce que la vie ?», ces personnes s'offusqueraient qu'on leur pose une question aussi évidente, et en même temps on voit bien que dès lors qu'on creuse un peu, on a ces deux extrêmes, donc d'une vie biologique et d'une vie qu'on peut appeler par symétrie biographique. Et Hannah Arendt avait bien souligné cette double dimension, puisque la première fait de nous des vivants au même titre que des animaux, des plantes, alors que la seconde individualise la condition humaine, puisque c'est celle, disait-elle, par laquelle il est possible de se raconter, donc les événements qui forment cette vie. Et la philosophie, donc, a essayé d'Aristote à Hegel, en passant par Descartes, a essayé de nouer ces deux dimensions avec plus ou moins de bonheur. Et effectivement, depuis un peu moins d'un siècle, on voit que les deux voies se sont différenciées de façon très très marquée. Lorsque on cherche les origines de la vie sur Terre, ou lorsqu'on s'interroge sur l'existence de vie sur d'autres planètes, on n'est plus dans les contes philosophiques où ce seraient des êtres humains ou qui nous ressembleraient beaucoup ou qui seraient un petit peu bizarres qui viendraient sur Terre, mais on est sur ce que les astrophysiciens appellent des biosignatures gazeuses, par exemple. Donc c'est une molécularisation de la vie qui constitue des progrès scientifiques tout à fait intéressants et des débats sur qu'est-ce qui a fait émerger à un moment donné la possibilité d'une reproduction et donc d'une vie. Et puis d'un autre côté, on a la littérature, une partie de la philosophie et puis surtout les sciences humaines qui s'intéressent à la vie telle qu'on en a l'expérience. Et cette distinction, c'est celle que faisait Georges Canguilhem entre, disait-il, le vivant, donc la structure de la matière de la vie, et le vécu, c'est-à-dire l'expérience des personnes. Et on retrouve ça d'ailleurs dans cette division dans les sciences sociales, puisque d'un côté, on a des sciences sociales qui s'intéressent aux sciences de la vie, à la vie biologique, c'est ce qu'on appelle les social studies of science, les études sociales sur la science. Et puis d'un autre côté, on a notamment des anthropologues, mais aussi des sociologues, des historiens, qui s'intéressent à la vie des êtres humains. Et au fond, ce que j'ai essayé, et évidemment ça n'est qu'une tentative et qu'une possibilité parmi d'autres, c'est autour de situations très concrètes, celles de migrants, de réfugiés, de personnes vivant dans des conditions parfois très 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 difficiles en France ou en Afrique du Sud, de montrer comment il était possible de renouer ces deux fils de la biologie et de la biographie.
Alors, pour renouer ces deux fils, vous avez mis en place une méthode systématique, appliquée en trois moments, qui chaque fois vous fait partir d'un concept philosophique, d'une proposition philosophique, que vous discutez, que vous retournez parfois, dont vous vous servez comme d'un outil pour atterrir vers un terrain sur lequel vous avez travaillé et de façon à renouer ces fils dont vous parliez. Alors ces concepts de philosophie, ce sont forme de vie, vie éthique et biopouvoir. Mais vous reprenez pas tout à fait les expressions. Forme de vie d'abord. Alors c'est Wittgenstein qui, le premier, a formulé cette expression, qui depuis a connu un très grand succès, peut-être du fait de son caractère imprécis au départ, il faut le dire, vous le rappelez, ce sont des écrits posthumes. Wittgenstein on a proposé une forme d'esquisse, mais beaucoup d'auteurs par la suite se sont appropriés ce concept pour en proposer des usages ou des définitions très très différentes. Et vous-même, vous participez de ça, vous reprenez forme de vie. Comment forme de vie est un concept qui vous permet, comme anthropologue, Didier Fassin, de travailler?
Alors effectivement, Wittgenstein a un usage très économe de cette formule forme de vie, qui apparaît seulement 5 fois dans son œuvre et qui n'apparaît pas comme un concept qu'il proposerait, mais plutôt comme une notion qui passe et cette notion est devenue effectivement au cours des dernières décennies est devenue extrêmement importante dans la discussion à la fois philosophique et des sciences humaines et de la littérature. Mais en même temps, elle est devenue assez vague, assez floue, renvoyant à un tout un ensemble d'éléments qui sont assez hétérogènes. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de lui donner une allure de concept, c'est-à-dire de mettre en tension deux éléments qu'on trouve chez Wittgenstein et qui d'ailleurs ont divisé ses commentateurs. Et que le philosophe états-unien Stanley Cavell a essayé, lui, au contraire, de renouer, qui sont justement une dimension biologique et une dimension biographique. Il le dit pas tout à fait de cette façon, c'est-à-dire qu'est-ce que dans les formes de vie, c'est-à-dire ce qui nous permet d'avoir de nous comprendre entre nous sans avoir besoin de multiplier les explications et les définitions, qu'est-ce qui relève de ce qui serait commun à tous les hommes et qu'est-ce qui relève de ce qui leur serait particulier. Et ce qu'ajoute Stanley Cavell, c'est de dire au fond il y a une dimension qu'il appelle ethnologique et qui est une dimension culturelle, et il y a une dimension biologique qui est très importante parce que c'est elle qui nous distingue qui distingue les êtres humains des animaux. Et pour en donner simplement un exemple et voir la portée de cela, lorsque il y a eu en Europe en 2014-2015 ce qu'on a appelé la crise des migrants, avec des flux de population venus du Moyen-Orient principalement et d'Afrique, eh bien, on voit tout à fait la différence qu'il y a entre ce qui s'est passé, par exemple, en Hongrie, où on jetait de la nourriture par-dessus des grillages pour que les gens les attrapent, et ce qui s'est passé en Allemagne, où on les accueillait dans des centres où on leur donnait des conditions de vie qui étaient beaucoup plus décentes. Et cette distinction-là entre traiter des êtres humains comme des animaux ou les traiter comme des êtres humains, justement, et quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve sous forme métaphorique dans le livre de Vincent Message, et qui me semble extrêmement extrêmement important. Et donc ce que j'ai essayé, c'est de prendre une forme de vie particulière, mais en même temps très significative de notre époque, ce que j'ai appelé le nomadisme forcé, puisqu'au fond, il est souvent très difficile de faire la distinction entre des réfugiés et des migrants, entre des demandeurs d'asile et des personnes sans titre de séjour. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est, en mettant en parallèle la France et l'Afrique du Sud, de montrer premièrement qu'il ne s'agissait pas d'une condition qui était spécifique à l'Europe, et comme on l'avait exagéré au moment de la supposée crise des migrants, puisqu'il y avait à l'époque plus de demandeurs d'asile en Afrique du Sud qu'il y en avait dans toute l'Europe.
Notamment des femmes zimbabwéennes.
Et notamment des femmes zimbabwéennes.
Vous avez travaillé.
Et deuxièmement, de montrer qu'il y avait chez ces personnes qui étaient traitées de cette façon, qui étaient très souvent exclues, marginalisées, qu'il y avait une forme de dignité, de solidarité qu'on pouvait interpréter comme une manière de résister à cette forme de vie imposée. Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et on voit bien que là le biographique, ce qui est arrivé à ces gens qui ont été persécutés ou qui ont été victimes de violences dans leur pays et qui fuient pour se réfugier dans un autre qui les accueille en général très mal, et en même temps la menace qui pèse sur leur existence biologique, le fait que tant de ces hommes et ces femmes meurent au cours de leur voyage, et eh bien il y avait là quelque chose qui permettait de renouer ces deux fils.
Le deuxième moment de ce livre est consacré à une autre expression, une tradition philosophique qui pense la vie éthique, mais vous retournez l'expression, vous préférez parler d'éthique de la vie.
Alors effectivement, la grande question que les philosophes se sont posées depuis l'Antiquité, c'est qu'est-ce qu'une bonne vie, qu'est-ce qu'une vie éthique ? Et c'est une question évidemment qui est tout à fait légitime et qui...
Good life au deux sens du terme good, voilà. bon et juste,
voilà,
à la fois.
Et qui se prolonge jusqu'à la réflexion par exemple de quelqu'un comme Théodore Adorno, l'un des fondateurs de l'école de Francfort. et c'est donc cette question est tout à fait importante. Celle que j'ai voulu poser et qui l'est moins souvent, c'est d'inverser les termes et de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que nous considérons dans nos sociétés et notamment les sociétés occidentales que la vie est le bien suprême, que la vie est la chose que nous devons protéger par-dessus tout, au moins en théorie. Et j'en donne différentes illustrations et j'essaye en reprenant du reste une réflexion qui était menée par initialement par Walter Benjamin de montrer comment cette sacralisation, comme il le dit, de la vie est apparue et notamment dans le cadre de la religion chrétienne qui a mis au sommet des valeurs la vie puisque c'était dans l'approche christologique c'est la plus haute chose que Dieu ait pu sacrifier, c'est la vie de son fils. Donc ça a été mis au sommet des valeurs, et c'est quelque chose dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers. Mais en même temps, je parle d'éthique de la vie au pluriel, parce qu'il y a d'autres sociétés ou d'autres contextes, ou tout simplement, dans lesquels d'autres éthiques sont mises en avant, et précisément des éthiques dans lesquelles il est possible de sacrifier sa vie. Alors, ce qui, bien sûr, conforte la valeur très haute de sa vie, mais non pas dans une logique humanitaire où il s'agit de la sauver, mais dans une logique plus directement politique, où il s'agit de défendre une cause. Des exemples bien connus sont ceux des grèves de la faim des Irlandais du Nord, ou des prisonniers kurdes en Turquie, plus récemment des prisonniers palestiniens en Israël, qui mettent en danger leur vie et qui, au fond, poussent oppose la souveraineté de leur existence physique en disant « je suis prêt à mourir » à un État qui est en principe est le souverain et qui doit décider de qui doit mourir et qui ne doit pas mourir. On en a un exemple caricatural dans le cas des États-Unis où un condamné à mort est surveillé jusqu'aux dernières heures de sa présence dans les couloirs de la mort pour ne pas qu'il se suicide avant d'être exécuté.
Mais on pourrait même élargir à la situation de notre société, dans d'autres contextes, au moment de la résistance. Je pense à ce très beau livre, le dernier qu'il a publié, de Jean-Pierre Vernant, sur les héros, et le lien entre son travail sur les héros grecs et les jeunes morts dans la résistance dont il fut. Mais on pourrait y associer le nom de Georges Canguilhem, que vous citez au début du livre, grand philosophe de la vie et grand résistant, maître de Michel Foucault, ce qui nous amène à la troisième partie Didier Fassin, parce que vous partez d'un malentendu aussi, il faut le dire. Beaucoup de gens se gargarisent de cette expression de biopolitique, se réclamant de Michel Foucault, et ne saisissant pas toujours, au fond, que derrière cette expression de biopouvoir ou de biopolitique, ce qui intéresse Foucault, et il l'a montré dans divers cours du Collège de France, c'est la question du gouvernement des populations, que ce soit à travers l'invention du libéralisme, des différentes pastorales, etc., bien plus que les questions de bio au sens de biologie qui vous intéresse. Et donc, vous partez de Foucault, mais pour faire un pas de côté, en quelque sorte.
Alors, ce pas de côté, j'essaie de le faire en déplaçant les termes biopolitique à politique de la vie. Pas pour jouer sur les mots, mais précisément pour souligner cette double distinction que vous venez d'évoquer, à savoir le fait que lorsqu'il parle de biopolitique, d'une part, Michel Foucault ne s'intéresse pas tellement, bien qu'il l'ait annoncé au départ, à la question de la vie, bios, mais beaucoup plus à celle des populations. Comment administre-t-on des populations? Quelles sont les technologies qui soit sont imposées à ces populations, soit que ces populations s'imposent, ou les sujets s'imposent à eux-mêmes? Et d'autre part, politique, dans biopolitique, laisserait penser qu'il s'agit de des enjeux sur le contenu de ces pratiques. Or, ce qui l'intéresse, ce sont plutôt les technologies, les techniques par lesquelles on gouverne ces populations. Et autrement dit, il faudrait plutôt parler d'une démo-gouvernementalité, en quelque sorte, plutôt que d'une biopolitique. Et donc, j'ai essayé de revenir à la question princeps, qui est celle des politiques de la vie. Autrement dit, comment traite-t-on les vies de façon très 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 concrète dans les sociétés contemporaines ou des sociétés plus anciennes du reste. Et bien sûr, ça nous amène à la manière très inégale dont ces vies sont traitées dans ces différents contextes.
Vous terminez sur la question de l'inégalité, dont on l'a compris, c'est le fil rouge de ce livre, avec cette exergue d'une phrase d'En attendant Godot, « Toutes les voix mortes, que disent-elles ? Elles parlent de leur vie. Il ne leur suffit pas d'avoir vécu, il faut qu'elles en parlent. »
Alors effectivement, y a quelque chose d'ironique dans cette phrase de Beckett, où il s'agit d'avoir cette double dimension, c'est-à-dire à la fois d'expérience de sa propre vie et en même temps de récit, de lui donner du sens. Et c'est une chose qu'on trouvait également chez Coetzee, par exemple, dans la vie et le temps de Michael Kay, où il s'agissait aussi on demandait aux gens de se raconter et donc c'est cette tension entre l'expérience et le récit de cette expérience, le fait de devoir lui donner du sens, qui au fond est un trait de la condition humaine, par quoi j'ai essayé de terminer en effet.
Coetzee et la littérature, on y revient tout de suite sous forme d'un dialogue avec un romancier, Vincent Message, mais ce sera après un extrait d'un album qui est paru à la fin de l'année dernière de Peter Van Peul, Inertia. La vie, mode d'emploi, critique, c'est un livre de l'anthropologue Didier Fassin dont on parle depuis le début de cette émission avec son auteur et désormais également avec Vincent Message. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous enseignez aussi la littérature et vous êtes responsable d'ailleurs à Paris 8 d'un master de création littéraire. Vous étiez venu parler d'un de vos essais sur les romanciers pluralistes. J'imagine que vous êtes en terrain connu quand vous entendez citer Stanley Cavell, parce que ces approches-là vous sont familières. Mais je sais aussi que vous vous intéressez plus récemment après les romans que vous avez publiés, à la question de l'animal aussi, et le lien entre l'humain et l'animal. Comment vous avez reçu ce livre de Didier Fassin, Vincent Message ?
Alors, j'ai trouvé que c'était une lecture tout à fait passionnante en ce qu'elle permet d'articuler une réflexion conceptuelle sur la philosophie politique et morale. Et puis, ça a été dit, et c'était visible dans ce que racontait Didier Fassin, des études de terrain et des histoires de vie singulières. Il y a un premier prolongement que j'aimerais essayer d'apporter, parce qu'il n'en a pas encore été question, c'est sur le concept de biolégitimité que pose Didier Fassin. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Le fait que la preuve biologique compte aujourd'hui parfois plus que la preuve biographique, ou que la menace sur la vie biologique est plus prise en compte que la menace sur la vie en tant qu'elle est digne d'être vécue. Et ça, pour moi, ça me paraît extrêmement important, pas encore tellement élucidé et très concret. À Paris 8 Saint-Denis, où j'enseigne, j'avais organisé en 2015 une conférence où on donnait la parole à des réfugiés qui ont très peu accès aux médias, dont on parle toujours, mais qu'on entend peu eux-mêmes. Et parmi les intervenants, il y avait un jeune Soudanais d'une trentaine d'années qui était avocat des droits de l'homme dans son pays, qu'il avait fui. Dans une première phase de son parcours, il a connu que les difficultés habituelles des migrants et des réfugiés. Il a dû fouiller les poubelles pour vivre dans la rue à Paris pendant plusieurs mois. Il a fait une demande d'asile, qu'on l'a fait attendre énormément de temps. Et quelques mois après son intervention très brillante à cette conférence, ce jeune homme s'est défenestré. Et il est tombé dans le coma. Et à partir du moment où il a été dans le coma, la manière donc où il y avait une menace sur sa survie biologique, la manière dont la France, l'État français, nous comme communauté nationale, nous avons pris en charge cette vie, a changé. C'est-à-dire que il a été admis à l'hôpital, il a été soigné gratuitement, des efforts ont été faits pour faire venir sa mère depuis le Soudan, et il a fini par sortir du coma, mais sans retrouver ses capacités intellectuelles. Donc tant que c'était une vie menacée par la politique, c'était une vie complètement marginalisée et réduite à la survie. Et à partir du moment où il y a eu menace sur la survie elle-même, à l'inverse, la France s'est montrée un peu plus généreuse ou un peu plus décente dans le traitement d'un cas comme celui-là.
Une histoire emblématique de cette primauté accordée à la biologie, Didier Fassin ?
Oui, ben, c'est celle d'une jeune femme haïtienne dont le père avait été très probablement tué. Il avait des activités politiques dans l'opposition de son pays. La mère a été enlevée et cette jeune femme donc a été, a-t-elle raconté aux officiers de l'OFPRA, de l'Office de protection des réfugiés des apatrides, elle a été donc violée dans un viol collectif en présence de son compagnon. Et donc à ce moment-là, elle s'est réfugiée chez sa tante et puis ensuite a décidé de venir en France où elle a donc demandé l'asile, a été rejetée par l'OFPRA, a été fait appel, a été rejetée une nouvelle fois par la Cour nationale du droit d'asile et s'étant à ce moment-là renfermée sur elle-même et cachée puisqu'elle était en situation irrégulière désormais, a vécu avec son frère jusqu'à un moment où elle n'allait vraiment pas bien et donc elle est venue à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui a fait des examens biologiques, des tests, et on a trouvé qu'elle était atteinte d'un sida qui très probablement provenait de ce viol collectif dont elle avait été la victime. Et dès lors, tout s'est mis en branle. Elle a obtenu un titre de séjour temporaire. Elle a eu, comme dans l'histoire précédente, des soins gratuits qui l'ont été donnés à l'hôpital. Et donc, elle a pu, comme me le disait un homme nigérien qui avait une histoire assez comparable, elle a pu vivre grâce à la maladie qui la faisait mourir. Et on a là quelque chose qui n'est pas un phénomène unique, puisque on a vu deux courbes se croiser dans les années 90 et 2000. D'une part, celle des taux d'acceptation de demandes d'asile qui déclinaient de 90-95% dans les années 70 à 7 à 10% dans les années 2000. et une courbe qui montait au contraire de ce qu'on appelait à l'époque la raison humanitaire, qu'on appelle aujourd'hui la raison familiale et privée, qui correspondait à la possibilité d'être régularisé lorsqu'on avait une maladie suffisamment grave qui n'était pas possible de traiter dans le pays. Et donc on voit bien là que dans ces deux courbes qui se sont croisées, avec d'ailleurs des histoires où des personnes qui sont rejetées de l'asile s'entendent dire « N'auriez-vous pas une maladie que vous pourriez présenter à la préfecture pour avoir peut-être une chance ?» Ces deux courbes reflètent exactement ce que vient d'évoquer Vincent Message, à savoir le déplacement de ce qui était une logique de défense de la vie politique menacée par des persécutions dans le pays d'origine à une vie biologique menacée par une maladie.
Vincent Message, on assiste peut-être néanmoins à une menace sur même ce type de sanctuarisation en quelque sorte de la vie, puisqu'on s'aperçoit désormais que les forces de l'ordre peuvent entrer dans des hôpitaux psychiatriques pour aller vérifier que les gens sont en règle de leurs papiers, ce qui n'était pas le cas du fait de ce que vous venez de décrire en quelque sorte.
Oui, et puis un autre cas en ce qui concerne également les réfugiés, c'est la question des tests osseux faits sur les mineurs. Aujourd'hui, on a des mineurs qui racontent leur biographie pour le dispositif d'évaluation des mineurs isolés et on leur répond dans des courriers officiels « Votre posture pendant l'entretien ne correspond pas à celle d'un adolescent, votre récit est stéréotypé, vous avez fait preuve d'une autonomie et d'une maturité importante en décidant seul de quitter votre pays et en voyageant seul, donc vous n'êtes pas mineur ». Mais ces arguments-là restent plus faibles que ceux que voudraient bien utiliser les gens qui gèrent ces dispositifs et que sont les tests osseux qui, à partir d'une radio de la main et du poignet, permettent de déterminer l'âge, sachant que c'est critiqué d'un point de vue médical, la fiabilité du test est critiquée, et puis que c'est critiquable aussi pour des raisons éthiques. Donc on a beaucoup de cas, effectivement, où de différences de statuts légaux peuvent découler des grandes différences, des grandes divergences. Cela étant, Didier Fassin marque le fait que, même s'il y a les débats sur la question de la dénomination, réfugiés, migrants sont très importants, au fond, les vécus sont similaires. C'est-à-dire que c'est pas comme si on accueillait bien les réfugiés et mal ceux qu'on identifie comme des migrants économiques. En réalité, on accueille assez mal tout le monde, jusqu'à preuve éventuelle que le statut de réfugié est bien légitime par rapport aux menaces subies dans le pays d'origine, auquel cas le traitement s'améliore un peu. Mais ça, c'est souvent des mois, voire des années après l'arrivée en France. Et sur cette question des catégories, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, vous l'évoquiez, c'est d'imaginer ce que pourrait être une extension de cette réflexion sur l'inégalité des vies aux animaux non humains. C'était, en somme, le thème de mon dernier roman, « Des fêtes des maîtres et possesseurs », où j'imaginais un monde où les humains ne sont plus l'espèce dominante, mais sont assujettis comme le sont chez nous les animaux, et répartis en plusieurs catégories, des humains de compagnie qui remplacent les animaux de compagnie, des humains qui travaillent pour les nouveaux maîtres, et puis des humains qui sont élevés et consommés pour leur viande. À travers cette expérience de pensée-là, ce sur quoi j'essayais de m'interroger, c'est sur le fait que c'est tous les niveaux d'inégalité, en fait. L'inégalité opère entre humains et animaux, elle opère entre les animaux eux-mêmes et elle opère entre les humains eux-mêmes. Et pour les animaux, pour le coup, quand il y a divergence de catégorie, il y a divergence de vécu. C'est-à-dire que l'éthologie reconnaît aux chiens et aux cochons des capacités de sentience, hein, c'est-à-dire la manière dont on ressent la douleur et dont on peut avoir une vie qui présente des intérêts et d'intelligence égales, mais en France, les cochons sont... vivent pour 90% d'entre eux dans des bâtiments confinés avant de mourir, et les chiens sont choyés, extrêmement bien traités, etc. En Chine, il en va différemment. Au festival de Yulin, on rôtit des chiens par milliers, et généralement, ça suscite beaucoup d'indignation dans les sociétés occidentales. Donc, c'est relatif évidemment à des critères culturels, mais ça dépend. Le traitement des animaux dépend beaucoup de la manière dont on les classifie, dont on les catégorise. Et ce qui me paraît intéressant de ce point de vue, c'est que moi, j'ai envie de sortir un peu comme Didier Fassin le fait dans ce livre des binarismes, et donc en l'occurrence de sortir du débat entre une réflexion sur le post-humain et une réflexion qui serait l'humanisme traditionnel, défendant les spécificités essentielles de la vie humaine. J'ai l'impression qu'au contraire, on réduirait la violence et on réduirait les inégalités en mettant en valeur l'interdépendance des vies, c'est-à-dire nos interdépendances entre humains et animaux, et le fait que reconnaître plus de valeur aux vies animales souvent, ça revient aussi à reconnaître plus de valeur aux vies humaines.
Didier Fassin, il faut élargir l'anthropologie, l'élargir. Alors, certains anthropologues ont commencé de le faire, au-delà de l'homme, vers d'autres formes de vivants, voire même d'objets, pour certains.
Alors, il le faut certainement, mais peut-être le faut-il de la manière que vient d'évoquer Vincent Message, c'est-à-dire en ne jetant pas l'humanisme ou l'humain, j'aime pas beaucoup le terme humanisme, au profit d'un post-humain qui s'intéresserait uniquement ou qui ramènerait l'homme à l'état d'animalité. Je trouve extrêmement efficace dans ce roman qui est un conte philosophique qu'on pourrait rapprocher de 1984, mais dans une forme beaucoup plus, je trouve, plus subtile, à la fois parce qu'on rentre très progressivement dans ce monde imaginé par l'auteur, mais aussi parce que les rapports sont y compris les rapports de violence sont assez feutrés, la brutalité est toute dissimulée et révélé progressivement, et je trouve que précisément montrer qu'il y a non seulement cette inégalité entre et de façon encore une fois à la manière d'une fable, de montrer qu'il y a à la fois cette inégalité entre les hommes et les animaux, mais de montrer qu'à l'intérieur de chacune de ces catégories il y a cette inégalité qu'on retrouve dans le roman, il me semble qu'il y a là une grande force qui permet d'aller au-delà de certains débats qui me semblent peut-être un peu stériles aujourd'hui en anthropologie.
Bien, merci beaucoup Didier Fassin. Je renvoie à ce livre, La vie, mode d'emploi critique, qui paraît à la couleur des idées aux éditions du Seuil. On trouvera la référence bibliographique sur la page de l'émission, La suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page où vous pouvez aussi réécouter l'émission et vous abonner au podcast. Et une page aussi où on trouvera les références des livres cités de Vincent Message. Merci à tous les deux. C'était La suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la réalisation Anne-Laure Chanel, et puis à la technique aujourd'hui, c'est Julien Calvas. Et c'est maintenant Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour la première partie cette semaine d'une histoire particulière.